Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour, lecture par tous sur Divergence FM 93.9. Alors aujourd'hui, nous avons des invités. Nous recevons Raymond Alcover, écrivain. Bonjour Raymond.
Bonjour.
Et puis se chargera de l'interroger, de le soumettre à la question, Pierre Beau. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, donc on va parler du dernier livre de Raymond Alcover. Ces Héroletais qui ont fait l'histoire. Et puis, on aura notre petit agenda en fin d'émission, comme d'habitude. Alors, Pierre, la mission te revient de présenter Raymond Alcover.
Alors, Raymond Alcover est un écrivain qui a publié 4 romans, un recueil de poésie et 2 ouvrages historiques. Le premier de ces ouvrages historiques concerne la Méditerranée, et le deuxième, eh bien, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui. 50 personnages, 50 artistes, écrivains, sculpteurs, scientifiques, savants, botanistes, tous originaires de l'Hérault, Montpellier, l'île singulière, Sète, Pézenas, Lunel, Lodève. J'ai découvert beaucoup de choses, j'étais souvent très étonné.
Alors, comment l'idée de ce livre est venue vraiment?
L'idée, c'était de faire un portrait de l'Hérault, en fait, de notre département, mais à travers des personnages qui l'ont illustré, qui lui ont apporté leur créativité, leur énergie, leur savoir-faire. Et donc, voilà, l'idée, c'était de prendre des gens et de les faire vivre à travers ce qu'ils ont créé. Donc, après, il fallait que ce soit un petit peu représentatif du département. Donc, c'est pour ça, bon, Pierre l'a un peu dit, que j'ai essayé de couvrir un petit peu toutes les parties un peu du département, donc pas seulement Montpellier, bien sûr, qu'il y ait aussi un peu toutes les activités. Et aussi, bon, il fallait quand même que ces gens aient eu une vie quand même passionnante, enfin, qu'il se soit passé des choses, puisque l'idée, c'est dans 3-4 pages de faire en fait une mini-biographie, de raconter un petit peu leur vie.
Alors, des personnages, j'imagine, qui ont été une découverte, que vous ne connaissiez pas. Donc, y en a qui ont séduit, il y en a qui ont agacé, il y en a qui ont...
Bah, agacé, pas trop, finalement.
pas trop.
Non, plutôt séduit, en fait, oui, puisque, bon, d'abord, c'est un peu un choix que je faisais, donc... Voilà, mais effectivement, alors il y a les passages obligés, Paul Valéry, Jean Moulin, Georges Brassens, évidemment. Bon, ceux-là, je ne pouvais pas ne pas parler d'eux, Georges Frêche, Bobby Lapointe. Mais même ceux-là, j'ai quand même essayé d'un peu sortir des informations ou des anecdotes peut-être qui étaient moins connues pour quand même arriver à intéresser les gens. Et puis, effectivement, j'ai essayé de trouver, et j'y suis arrivé, des gens qui étaient moins connus. Comme par exemple, un des plus étonnants, effectivement, c'est Alexandre Grothendieck, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand mathématicien du XXe siècle, qui était un personnage tout à fait complètement atypique et marginal, mais qui était un mathématicien génial.
Oui, j'ai constaté que dans notre département, ont vécu d'une part, le plus grand mathématicien du XXe siècle, et puis le plus grand cinéaste du XXe siècle.
Oui.
Un peu oublié, j'espère que ce livre va contribuer.
Oui, Louis Feuillade. Oui, tout à fait. Oui, lui, c'est vraiment. C'est-à-dire, il est un peu oublié, entre guillemets, parce que c'est les origines du cinéma. C'est vraiment. Oui. C'était pas encore le parlant. Donc, mais il a grandement contribué à faire du cinéma français effectivement ce qu'il est.
Il est considéré comme le plus grand cinéaste de l'histoire par Truffaut, par Alain Resnais et par Breton.
C'est bien.
C'est pas mal.
C'est pas mal, on peut dire que c'est certaines autorités. Oui, c'est lui qui avait fait les premiers Fantomas.
Voilà,
si
c'est
j'ai
ça.
Bonne
il
mémoire.
S'est illustré par ses films à série, enfin à épisodes. Et donc, ça, là, ce qu'il a vraiment fait connaître, c'était Fantomas, qui a été un peu un effet de. Qui a à la fois séduit le grand public et André Breton et les surréalistes. Donc, c'était parfait, quoi. Oui, une chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on parle d'Hérolleté, mais tous les 50 ne sont pas nés dans le département. Mmh. En fait, c'est... Bon, on le sait, l'Hérault est un département de passage, de croisement. Et en fait, on le voit à travers ce livre, puisque plusieurs, beaucoup même, on peut dire, de gens qui se sont illustrés dans l'Hérault ne sont pas natifs de l'Hérault. Et même... certains qui sont nés dans l'Hérault, parfois, dès qu'on creuse un petit peu leur biographie, on s'aperçoit que c'est seulement depuis une ou deux générations. C'est le cas de Paul Valéry, par exemple, qui est sétois, mais dont la mère était génoise et le père corse. Donc, bon, c'est un sétois. Bon. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, parce qu'après, donc, ça aurait été absurde si, par exemple, de pas. Georges Frêche est né dans le Tarn. De ne pas le traiter, puisque toute sa vie et son action est à Montpellier.
Oui, c'est vraiment une région de rencontre entre l'Espagne, la Provence, le comtat venaissin, on peut dire à propos de l'Espagne aussi bien musulmane que catholique, et avec tout ce que ça a supposé aussi comme exil.
Oui, toutes ces influences.
L'Hérault a toujours été très accueillant.
Oui, toutes ces influences se retrouvent en fait. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est bon. De toute façon, il suffit de regarder une carte. Hein. C'est entre l'Est et l'Ouest, et puis la montagne et la mer. Donc ça n'a pas cessé de se croiser, d'être envahi, d'être. Donc, et tout ça a laissé des traces.
Alors, des gens qui nous sont chers dans cette émission, parce que ce sont des écrivains, on s'intéresse beaucoup à la littérature, c'est quelqu'un comme Gaston Bessette, par exemple, qui est né à Albi, je crois.
Oui, mais en fait, oui, il est pas né dans l'Hérault, mais c'est un peu accidentel, en fait.
C'est l'auteur de Moggio.
Oui, c'est ça, vraiment, sa terre, c'est l'Hérault. Essentiellement Moggio, les temps de l'or, dont il a beaucoup parlé, un petit peu l'arrière-pays aussi, Hérolleté. Et oui, lui, il est intéressant parce qu'il était à la fois médecin et écrivain, en plus. Parce que, bon, donc, Montpellier est une terre médicale par excellence aussi. Et il a mené, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il a mené les deux carrières, on va dire, de concert, et sans privilégier ni l'une ni l'autre. Il a fait les deux. Ça, je trouve ça intéressant. Et en plus, au niveau... c'était quelqu'un de très engagé politiquement, au niveau de... très engagé sur la médecine sociale. Enfin, voilà. Et il s'est battu toute sa vie pour les deux activités, quoi. Et en plus, c'est un très bel écrivain qui a un beau style. Et qui a écrit un livre vraiment magnifique qui s'appelle « Ce pays de Montpellier », qui est très documenté, où il raconte, lui aussi à sa façon, il a fait un portrait, mais plus historique vraiment, de Montpellier et des alentours. C'est un très très beau livre, avec un très bien écrit.
Je crois qu'on est beaucoup qui aimeraient le découvrir. Est-ce que vous avez parmi ces romans, un ou plusieurs que vous nous recommandez pour démarrer?
Je commencerai par Ce pays de Montpellier, je trouve qu'il est le plus...
C'est un roman
enfin, Non, c'est un petit essai, en fait, mais un essai par un écrivain, quoi. C'est vraiment avec du style, avec de la finesse, mais aussi beaucoup d'informations, donc c'est... voilà.
Et si on veut lire une histoire, enfin, un de ces romans... Et on les trouve, ces livres de Gaston Bessette, on peut les trouver.
Oui, alors il est... Bon, c'est pas quelqu'un, il est un petit peu oublié aujourd'hui. Enfin bon, il n'est pas très, très connu, Gaston Bessette, effectivement. Il est un peu passé... voilà. Bon, il est connu ici, mais je pense pas que... Bon, je pense qu'on peut trouver ses livres, sans problème, en bibliothèque ou à...
Pour les passionnés des étangs, il a écrit un livre qui s'appelle « L'étang de l'or », si j'ai bonne mémoire.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, vraiment son lieu, quoi. Si souvent les écrivains sont attachés à un lieu, et lui, c'était vraiment « L'étang de l'or ».
Alors, il pour... y a des noms, plein, alors, un tas de noms, hein, y a une cinquantaine de personnalités, voilà. Je comprends pourquoi maintenant dans l'arrière-pays il y a est implanté l'Arche, puisque je vois qu'il y a Lanza del Vasto qui, est,
et oui.
qui fait partie des biographies.
Et oui, parce que Lanza del Vasto a fini sa vie dans l'Hérault. Alors c'est vraiment à la limite de l'Hérault, hein, c'est à Roquederonde, c'est vraiment au pied du Larzac. Mais c'est là qu'il a créé la communauté de l'Arche. Et donc il a fini sa vie là-bas. Donc j'ai un petit peu là, j'ai plutôt axé mon texte sur plutôt la fin de sa vie qui se passe effectivement dans l'Hérault. Mais bon, j'ai quand même un peu raconté un petit peu tout son parcours qui est assez, assez intéressant aussi.
Alors, il y a un autre grand écrivain dont on parlait avant de venir au studio, on prend ou tourne un café, qui est le grand écrivain occitan contemporain, on pourrait dire, Max Rouquette.
Ah oui, Max Rouquette, c'est... qui a failli... Enfin, à un moment donné, il était... on l'annonçait pour le prix Nobel. Bon, finalement, il n'a pas eu. C'est un écrivain qui a une grande aura, en fait, à l'international, mais qui a commencé... Il a écrit en occitan, toujours. Et en plus, il s'est battu pour la langue occitane. C'est-à-dire, c'était un militant aussi, quoi. Il a été écrivain, militant, et médecin aussi, lui aussi.
Encore un.
Encore un. Et oui, et lui aussi, il a été, jusqu'à la fin de sa vie, il a été médecin et écrivain.
Et son père lui lisait des vers de Mistral, je crois.
Oui, c'est ça.
Enfant.
Oui, oui, oui. Oui, mmh. oui.
Et j'ai, toujours à propos de littérature, j'ai été frappé de voir que se promenait dans les rues de Montpellier de concerts... Paul Valéry, André Gide, Pierre Louis, donc trois amis, et que assez rapidement, Paul Valéry s'est mis au travail pour écrire Monsieur Test dans la chambre même où Auguste Comte avait.
Eh oui, ça c'est très étonnant, effectivement. Oui, donc les trois écrivains là, dont tu as parlé, effectivement, se sont rencontrés à Montpellier et sont devenus amis là. Donc ils ont arpenté aussi les rues du Vieux-Montpellier, aussi le Jardin des Plantes. Il y a une petite plaque qui le commémore. Et effectivement, ce qui est très étonnant, c'est que Paul Valéry a écrit, bon, ce qui pour moi quand même est son chef-d'œuvre, Monsieur Test, dans la maison qu'avait habité Auguste Comte, entre Montpelliérain, fondateur de la sociologie et du positivisme. Exactement, c'est rue de la Vieille Intendance à Montpellier. Oui. Donc c'est, voilà, il y a des correspondances parfois et des assez étonnantes. Ouais.
Et aucun des quatre n'était médecin, donc ça veut dire qu'à Montpellier, on a l'esprit large.
Oui, c'est possible de ne pas être médecin quand même, oui.
Alors, il y a des personnages inconnus. Alors, on parlait d'engagement tout à l'heure. Un nom que je ne connaissais pas du tout, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure autour du café. Josette Clotis.
Ah oui, Josette Clotis, oui, oui, c'est... Ben, c'est une, elle était écrivain, elle a été... Tout de suite, elle a eu du succès, c'est une Montpelliéraine. Donc, elle monte à Paris, comme on dit, et... Et tout de suite, bon, Gallimard l'a séduit. Enfin, donc, elle est introduite un petit peu dans le tout Paris littéraire. Et là, elle fait la rencontre d'André Malraux. Ça va être le coup de foudre. Sauf que Malraux, d'une part, est marié. Et que, en plus, bon, Malraux, il a la vie qu'on connaît. C'est-à-dire, il était souvent... plutôt en déplacement à l'étranger que là. Et bon, elle, finalement, même s'ils ont vécu des choses assez fortes ensemble, bon, elle était toujours un petit peu dans le regret de ne pas pouvoir partager plus avec lui. Et puis, bon, enfin, on ne va pas peut-être raconter la fin là, mais la fin est assez tragique.
Alors, au moins, on encourage les auditeurs à se procurer le livre. Ils découvriront... La fin de l'histoire de Josette Clotis.
À ce sujet, je me suis posé une question en lisant sa biographie de Josette Clotis, donc dans ses hérotais qui ont fait l'histoire. Est-ce que ce ne serait pas l'explication du fait que Malraux, malgré ses engagements en Espagne, en Indochine, finalement n'est rentré dans la résistance qu'en 1944? Est-ce que ce ne serait pas parce que c'est seulement pendant la guerre qu'il a pu enfin vivre formé un couple, une famille avec Josette Clotis.
Je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas trouvé de source qui corroborait ça. Effectivement, ça a beaucoup étonné beaucoup de personnes, le fait qu'il ne soit rentré dans la résistance que 44, étant donné son passé, notamment avec la République espagnole. Enfin, à ce stade, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'explication. Je ne sais pas si on peut le lier à... Parce qu'il est un fait assez étonnant, effectivement, c'est que, par contre, la guerre, dans un premier temps, a rapproché Josette Clotis de Malraux, puisque c'est pendant la guerre qu'ils ont pu vivre d'assez longs moments ensemble. Ils ont eu quand même deux enfants ensemble. Oui. Donc, oui, peut-être. Mais, enfin, c'est pas... En tout cas, je n'ai pas avéré de ma part, en tout cas.
Elle lui a fait découvrir la région, notamment Montpellier.
Ils sont venus passer quelques jours à Montpellier. Oui,
les Pyrénées orientales aussi, je crois.
Voilà, c'est ça. Bon, après, ils ont beaucoup... Bon, c'était aussi la guerre, une période assez, évidemment fort troublée. Donc, ils ont pas mal bougé. Ils étaient d'abord sur la Côte d'Azur et puis après, ils se sont retrouvés dans le Massif central.
Oui.
Et c'est là où l'histoire se termine, en tout cas pour elle.
Voilà, donc ces Héraultais qui ont fait l'histoire. Une belle façon, je trouve, de revisiter l'histoire, bien sûr, mais aussi la géographie urbaine du département, parce que tout d'un coup, il y a des noms de places, de rues, d'hôpital, que sais-je, qui s'éclairent autrement, parce que tout d'un coup, c'est pas juste le nom d'une place, il y a Rondelet, par exemple. Non, c'est pas juste une poste, c'est aussi c'est aussi quelqu'un, et quelques autres comme ça. Il y a quelques absents, peut-être, ou à l'écart, est-ce qu'il y a de quoi alimenter une suite
Probablement, parce que, bon, effectivement, il fallait, bon, ça c'est une contrainte de l'éditeur, il en fallait 50, donc, bon, à un moment donné, voilà, il a fallu s'arrêter. Donc, surtout en fonction un peu des critères que je vous ai donnés un peu rapidement tout à l'heure, bon, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans la liste, donc j'avais, on va dire, une liste complémentaire avec pas mal de gens. Voilà, je pense qu'il y a effectivement matière à un deuxième tome.
Voilà, donc si vous avez des personnages illustres que vous aimez bien, si vous êtes amateur de musique par exemple et que vous aimez Georges Auric, qui est né lui à Lodève.
Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu regretté parce qu'en fait je l'ai découvert un peu trop tard, j'avais terminé le livre malheureusement, et effectivement j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir traité parce qu'il est vraiment intéressant. Ouais.
Oui, les musiques des films de Cocteau, jusqu'à la musique de La Grande Vadrouille, et puis musique de films pour Hollywood, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont fait ça quand même.
Oui, tout à fait. Oui, parce que sinon, on n'a pas de musiciens classiques, curieusement, de compositeurs qui soient héraultés.
Pas beaucoup.
Après, par contre, dans la musique plus populaire, on a Manitas de Plata, on a bien sûr Bobby Lapointe et Georges Brassens. De ce côté-là, ça va, mais on n'a pas de musiciens classiques.
Voilà, donc une première série, on va dire comme ça, de 50 héraultais qui ont fait l'histoire et qui continuent de la faire, d'une certaine façon. Par Raymond Alcovert, et c'est aux éditions, c'est un petit éditeur local.
Le Papillon Rouge.
Merci Raymond Alcovert.
Merci à vous.
Merci Pierre Beau, et nous allons passer à notre agenda. L'agenda des collecteurs et de lecture par tous, autrement dit, votre agenda. Alors, quelques rappels d'abord. On vous rappelle le banquet de la grâce dans l'Aude. Ça se passe du 2 au 4 novembre sur la question de la création. Et puis, le dimanche 4 novembre aussi, on vous l'avait déjà annoncé la semaine dernière, le salon du livre de Pignan avec une trentaine d'auteurs régionaux. Ça se passe dans les caves du château. Et puis, dans la semaine, on vous l'avait déjà annoncé, mais n'oubliez pas, une ouverture de librairie à Sommières, la petite librairie qui ouvre, un événement dans une ville comme Sommières. Et puis, des auteurs à rencontrer. Alors, c'est le 6 novembre, c'est une journée terriblement chargée, ce 6 novembre. Au Grain des Mots, Stéphane Hertzmans pour Le Cœur Converti, librairie Le Grain des Mots à Montpellier, boulevard du Jeu de Paume, ça se passe à 19h. Et puis... au musée Paul Valéry à 7, dont on a parlé précédemment, à 18h30 au musée. c'est le poète vénézuélien Rafael Cadenas. Alors, plus de détails que je ne vous en avais donné la semaine dernière, je vous avais lu un petit extrait de texte de Rafael Cadenas. Ça va se passer avec Michel Arbatz. Michel Arbatz, chanteur, diseur de texte, lui-même poète et écrivain. Donc, il va y avoir les textes de Rafael Cadenas, lui en espagnol, lui en français, par Michel Arbatz, qui lit, qui sait lire, qui est un expert en lecture, si je puis dire, accompagné à la guitare par Olivier Roman Garcia. Voilà, ça c'était pour les rappels. Et maintenant, des nouvelles dates dans l'agenda. Alors, dimanche 4 novembre, ça c'est pour les enfants, et oui, aussi pour les enfants, la médiathèque Émile Zola, une lecture d'album pour les enfants, y compris les tout-petits, à partir d'un an. Ça se passe au deuxième étage de la médiathèque, il n'y a pas besoin de s'inscrire en plus. Vendredi 9 novembre, salle Bonnet, 34 rue des Étuves, 5 poètes autour de la poésie espagnole contemporaine, avec plus particulièrement un centrage, si je puis dire, sur un poète un petit peu, en France, un petit peu négligé, Miguel Hernández. C'est un poète contemporain de Lorca qui a aussi été un militant, qui a été emprisonné, qui est décédé en prison, qui a eu vu un seul recueil, un tout petit recueil publié de son vivant, il est mort en 1942, et puis qui a écrit aussi des contes depuis sa prison, ça c'est très touchant, il a écrit un volume de contes depuis son emprisonnement sur du papier hygiénique qu'il a relié, 4 petits contes pour son enfant Manolio. Voilà, donc une occasion de découvrir la poésie de Miguel Hernández, un poète que certains considèrent majeur, à l'égal d'un Federico Garcia Lorca dont il était contemporain. Ce qui n'est pas rien quand même. Donc venez le découvrir, il est assez peu connu en France. Vendredi 9 novembre aussi, alors on va aller un petit peu plus loin. Je vous invite à vous déplacer du côté de Villeneuve-les-Avignon. Villeneuve-les-Avignon avec un festival de polar. Alors, avec une originalité que la thématique, c'est polar et gourmandise. Eh oui, dans les polars, on mange, on boit, on fait beaucoup de choses. Donc, il y aura aussi du théâtre. Il y a une pièce de Tonino Benacquista qui s'appelle Un contrat. Dans le monde du polar, on voit ce que c'est, un contrat, n'est-ce pas? Il y aura des films aussi, présentés par les auteurs qui sont invités au festival, notamment un film qui s'appelle « Tiré sur le caviste » d'Emmanuel Berco, 2008. Un vieux film américain « Détour » qui date de 1945. Et un autre film américain, puisqu'il y a un auteur américain qui est invité, « Un plan simple » qui date de 1998. Puis des lectures, des ateliers, des tables rondes et de la gourmandise avec des dégustations. Même week-end, il est bien rempli ce week-end. Là, c'est plus sérieux, c'est les assises de la traduction littéraire. Ça se passe en Arles, avec qu'est-ce que c'est que le temps comme thématique. Et oui, comment on traduit le temps? C'est vrai que nous, on a l'habitude d'exprimer le temps d'une certaine façon. Alors, si vous parlez l'espagnol, ça se ressemble beaucoup. C'est des langues qui ont les mêmes origines. Mais si vous pratiquez le russe ou l'allemand ou même l'anglais, l'expression du temps, ce n'est pas tout à fait la même. Et c'est là-dessus que vont travailler les invités de ces assises de la traduction littéraire, avec des invités qui peuvent paraître surprenants, comme Étienne Klein, philosophe, physicien, mais aussi très grand expert d'anagrammes. Il écrit des anagrammes. Anagramme, vous savez, c'est on prend une expression, on mélange toutes les lettres et on sort une autre expression. Et puis, il y aura un travail sur la traduction du temps chez Proust, bien sûr. On va retrouver le temps de la traduction de Proust. Il y aura aussi de la musique avec un batteur de jazz qui donnera aussi son tempo à la question de la traduction. Et puis des ateliers de traduction ouverts à tous. Vous pourrez vous essayer à la traduction et voir quelles sont les difficultés de la traduction. Alors attention, c'est payant. Il faut aller voir sur les assises de la traduction littéraire. Vous cherchez, tapez ça sur Internet, vous allez trouver leur site et vous aurez tous les détails. Et puis, un dernier festival qui est aussi ce week-end-là, décidément, la période du mois de novembre est bien, bien remplie. Ce n'est pas que des prix littéraires, c'est beaucoup d'autres choses. C'est à Saint-Ambroix. Alors Saint-Ambroix s'éloigne encore un petit peu plus de Montpellier, à 20 km au nord d'Alès, sur la route d'Aubenas. Un festival qui s'appelle Vivre Livre. Et oui, c'est un beau titre, n'est-ce pas ? 18e édition. Il était connu comme le salon régional de l'encre, du papier, de l'écriture, de l'impression, de la reliure, de l'édition et du livre. Tout ça. Donc oui, l'écriture, le support matériel du livre a sa place dans ce salon-là, centré cette année sur la littérature jeunesse de tout âge. Hein, on reprend l'idée 7 à 77 ans, voilà, la littérature jeunesse n'a pas d'âge. Donc, Saint-Ambroix, je vous conseille d'y aller, ça a l'air tout à fait sympathique et intéressant. Juste une petite présentation qu'ils font eux-mêmes. Vivre Livre a choisi de mettre à l'honneur et en valeur l'ensemble des métiers du livre, et pas seulement, retrouver des calligraphes, des illustrateurs, des imprimeurs, des relieurs, des graveurs, des maisons d'édition, la fabrication du papier végétal et du papier marbré, point de suspension. Et surtout, Vivre Livre, un salon très sérieux où personne ne se prend au sérieux. Simplicité et convivialité sont les maîtres mots de ce week-end de rencontres riches d'humanité. Voilà, donc Saint-Ambroix, ça vous fera faire un petit peu de tourisme en Cévennes. Et puis, je terminerai en rappelant que le 10 novembre, les collecteurs poursuivent leurs activités à la Maison pour tous Chopin. Et ce sera à partir de 10h15 la deuxième réunion des collecteurs ados, hein, puisque nous avons un groupe collecteur tout âge et puis un groupe collecteur les spécialisés ados. Donc si vous avez à la maison des ados passionnés de lecture, c'est l'occasion d'échanger avec d'autres passionnés de lecture pour partager des lectures. Voilà, c'était Lecture par tous, présenté par les collecteurs. Nous vous souhaitons de bonnes lectures et vous disons à très bientôt. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.